Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
Allez, à votre santé. Et oui, les fleurs, c'est bon pour la santé. Ali Habibi, modernité du progrès au regret. C'est le titre de l'émission qu'on vous propose aujourd'hui avec Ali Habibi. Bonjour Ali.
Bonjour à tous.
Thérapeute de couple et de la famille, doctorant en psychologie clinique. Ali, vous faites bien de remarquer ces fleurs qui embaument et qui enluminent notre studio. Eh bien, ces fleurs, figurez-vous, Ali, nous ont été apportées par Maximilien Bachelard.
Ah, voilà. Ici, là. Ça s'explique, alors. Ce que je vous dis, c'est la première fois que je vois des fleurs sur le plateau.
Ouais. Elles sont belles et elles sont magnifiques. Elles sentent magnifiquement bon.
Merci Max.
Maximilien, docteur en psychologie. Oui, parce que Maximilien, s'il vous plaît, pas de familiarité avec Maximilien Bachelard. Je ne voudrais pas qu'on prenne l'habitude de l'appeler Max tous.
Oui, on peut m'appeler
docteur.
Voilà, docteur. Auteur de l'approche intégrative en psychothérapie. Et oui, les fleurs. Mais c'est vrai que ça fait un bien fou, les fleurs.
Oui, j'en avais partout. Et vous savez, quand vous avez plein de jardins, vous dites qu'elles vont mourir, donc il faut vite les offrir. Et puis, c'est une spécialité de la Seine-et-Marne, les roses, notamment les roses de Provins. Ça ne vient pas que du Liban, on fait beaucoup de choses avec la rose en Seine-et-Marne.
Voilà. Bien. Est-ce que vous avez du lilas également? Parce que
Alors oui, j'ai du lilas. Enfin, j'ai beaucoup de choses, mais je ne voulais pas remplir la voiture non plus.
Si vous pouvez nous apporter du lilas aussi, parce que c'est si vraiment quelque chose qui dure très peu de temps, c'est le lilas. Donc là aussi, ils sont beaux.
Les coquelicots aussi.
Les coquelicots, ça ne sent pas.
Donc tu veux des fleurs qui durent peu de temps?
Non.
Qu'elles te dérangent,
c'est ça? Je sais que ça fera plaisir à une amie qui aimera beaucoup les fleurs. Bien, et il y a de la nourriture. Il n'y a jamais autant de nourriture dans cette maison que pendant le mois du Ramadan.
Vous inquiétez, là.
Ouais, je suis ramené du Périgord et puis une petite recette avec de la rhubarbe du jardin, donc bien bio, comme il faut. Voilà.
Faut l'inviter plus souvent, ce jeune homme.
Ouais, mais je sais. Mais c'est pas faute d'essayer, Ali, hein. Mais il a un emploi du temps un peu de ministre. Bien, modernité du progrès au regret. Vous m'avez dit que vous aviez écrit un petit texte, Maxime.
Oui, exactement. Je voulais vous lire un petit texte que j'ai fait. Et quand j'ai parlé à ma femme de la thématique hier, elle m'a dit, ah là là, elle a rigolé, elle m'a dit, la modernité, c'est la fin du monde. Donc c'est pour vous dire l'ambiance à la maison.
Mais alors donc elle me rejoignait. Donc,
elle a lancé exactement. Et elle m'a dit, c'est même l'apocalypse. Et donc après, on a mangé. Voilà, ensemble.
Mais est-ce que vous avez mangé devant la télé ou pas?
Non, dans le jardin, vous rigolez ou quoi?
Ah ouais.
Bah oui. Ah non, c'était pas dans le jardin, c'était devant un film hier.
Ah non, vous avez mangé. Manger devant la télé, non, c'est pas bon.
Oui, mais très souvent on mange dehors, voilà. Bon.
D'accord.
Je vous raconterai ma vie de couple la prochaine émission.
Non, c'est pas ça. Mais pour la modernité, par exemple, il faut couper la télé. Quand on mange, il faut pas manger devant la télévision, par exemple.
Oui, et le plus souvent, c'est ce qu'on fait. Je déteste ça, de toute façon. Je peux pas manger et regarder la télé. J'en mets partout, sinon. Enfin, bref.
Bien. Vous savez que Maître Serran, quand je lui demande de lire son texte, il y va tout de suite. Hein.
Très bien. Alors.
Enchaîné, Maximilien.
La modernité, c'est le mot vicieux qui fait croire que ce que l'on fait d'idiot et d'insensé à l'heure actuelle fait partie d'un mouvement général qu'on appellerait progrès. Depuis quelques années, le mouvement planétaire semble s'accélérer. Les laboratoires pharmaceutiques se portent bien. Les cancers augmentent, les thyroïdes se dérèglent comme les montres à gousset. Le nombre d'enfants autistes bondit comme le nombre de myopes. La terre dans laquelle on fait pousser va mal. Londres a des bouchons dans ses égouts, plein de graisse et de serviettes hygiéniques. Vite, trouvez-moi une planète pour y mettre mes poubelles. Vous savez, chers auditeurs, que le quotient intellectuel est en baisse depuis une quinzaine d'années à travers le monde. Officiellement, la race humaine se crétinise. C'est le propos du film Idiocratie dans lequel un Américain moyen hibernera 500 ans pour se réveiller dans un monde où ceux qui priment la jouissance immédiate, l'irresponsabilité collective, le mépris total des conséquences sur l'autre, d'un égocentrisme écœurant. On voit une population se baffrer, être idiote et en rire, une vie en somme qui n'a plus aucun repère, aucun sens et qui n'a pour seul but que sa propre satisfaction. Les avancées technologiques nous ont en même temps tellement apporté. Une de mes arrière-grand-mères était lavandière, c'est-à-dire que son boulot consistait à laver le linge au bord de la rivière. Essayez une fois et vous m'en direz des nouvelles. Sans mon GPS, aujourd'hui, je suis foutu. Sans essence, je ne peux plus aller au travail. Sans cacao, je ne peux plus faire mon superbe tiramisu. Et le problème nous apparaît donc plus clairement. Nous avons tous été habitués à un confort, endormis dans une dépendance agréable. Personne ne veut être réveillé de sa sieste. Pour ne pas souffrir de la perte de ses conforts, il faut savoir moduler, différer, faire autrement. Le piège est de dire que l'on est démuni dans l'immédiat. Mais déconstruire demande du temps, comme il faut du temps pour que les arbres poussent, du temps pour enregistrer le chemin à la place du GPS. Il faut savoir imaginer quoi mettre à la place du cacao, de la cannelle, de la cardamome et pourquoi pas du cumin, chef, voilà. Et si tout ceci n'était qu'une affaire de dépendance, et si nous n'étions que des drogués, si vous mettez une crème pour faire disparaître vos 3 boutons sur le visage, qu'ils disparaissent, mais qu'en oubliant d'en remettre le lendemain, ils vous en poussent 6, que faites-vous? Le réflexe est de rapidement en remettre pour faire disparaître ces horreurs. puisqu'on se sent atteint d'une maladie, évidemment. Et si la solution était le problème, finalement? Et si la maladie était notre comportement plutôt qu'être à l'intérieur de nous? Aujourd'hui, à n'importe quel endroit du monde, à n'importe quelle seconde, je peux commander n'importe quoi sur un site d'achat et le recevoir dans la semaine. L'attente, l'envie, le désir, l'incertitude, le fantasme se réduisent comme peau de chagrin. Et croyez-moi qu'une majorité de petits jeunes que je vois à mon cabinet toutes les semaines ont déjà bien à souffrir de ce problème. Sachez qu'un avocat parcourt 10 000 km pour que vous le mangiez. Non pas Maître Serran, l'avocat, hein, mais le fruit que l'on mange avec des crevettes. 10 000 km, c'est 20 fois Paris-Strasbourg, les amis. Et il arrive dans de grands containers climatisés. Et les migrants n'ont pas cette chance. Et pour terminer, vous savez combien il faut de quantité d'eau pour faire pousser un seul avocat? 400 litres, soit 44 packs d'eau. Mettez un avocat devant vous, 44 packs d'eau derrière, et mettez-le dans un bateau climatisé pour 10 000 km de route. Il sera vendu par une caissière peut-être mal payée, alors j'espère que vous le finirez ce soir et que vous ne le jetterez pas. De toute manière, on n'a jamais autant d'obèses sur Terre et de sous-alimentés. Il y a bien un moment où ça va s'arrêter, j'espère, et sans passer par une guerre, rêvons-le.
Allez, pour une première, c'est bien, hein, Max, c'est bien travaillé. Maximilien, pardon, vous avez bien travaillé. Alors les lavandières, je ne sais pas ce que vous avez contre les lavandières, mais ma grand-mère non plus n'avait pas connu la machine à laver. C'est-à-dire que dans ce siècle, elle a connu la machine à laver, le réfrigérateur, la télévision, le téléphone portable. Donc pour elle, tout a été incroyable. Mmh. Mais elle continue à laver son linge à la main ou avec une petite calore.
Et donc vous n'avez jamais essayé, Philippe, de laver tout le linge familial à la main?
Non, j'ai pas essayé. Mais
que c'est dur, c'est ça en fait. Ouais. C'est que c'est d'une difficulté incroyable et heureusement que la modernité nous a amené toutes ces choses. Et évidemment, elle n'est pas à rejeter.
Alors effectivement, donc dans cette partie-là, on voit que la technologie, ça vient et ça facilite la vie des utilisateurs. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si les nouvelles technologies ont des effets sur notre santé mentale? Est-ce que c'est quelque chose qu'on mesure ou pas?
Alors directement, ça va être compliqué de pouvoir mesurer ça, mais on sait que, comme je vous l'ai dit, l'explosion de la myopie, c'était un petit peu la discussion qu'on avait sur l'ancienne émission Accro aux écrans, où finalement le nombre de myopes qui explose dans le monde entier, ça tombe pas du ciel en fait. L'exposition à la lumière bleue des écrans, c'est-à-dire que les écrans d'iPhone, d'iPad, d'ordinateur émettent une lumière qu'on appelle bleue, et elle va venir déréguler tout le système. Ça va avoir une influence sur la vision, et le manque d'exposition à la lumière naturelle qui est produite notamment par le travail en intérieur qui est de plus en plus courant et devant les écrans va amener à une explosion de nombre de myopes. Ça, c'était le propos d'un documentaire sur Arte, notamment. Mais oui, on a des difficultés à différents niveaux, que ce soit sur la sédentarité ou ce genre de choses. Quand les gens sont obligés de se mettre un podomètre pour savoir combien ils font de pas, parce qu'en fait, ils font 5 minutes et tout le reste est en métro ou en voiture, ça devient un petit peu compliqué. Et je pense qu'à plein de niveaux, on peut souffrir dans un sens de ce qu'on appellerait le progrès ou la modernité. C'est à définir, ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ali, si ça t'évoque des choses, mais il est facile de voir dans la modernité quelque chose de diabolique. Et je pense qu'on ne peut pas rejeter ça, parce que, évidemment, venir à Beurre FM en charrette avec deux chevaux, je pense que ce ne serait pas facile non plus.
Avec
une deux chevaux, ce serait possible.
Ouais.
Mais c'est de trouver cet équilibre. Et je pense que c'est toute la question un peu de l'émission.
Aujourd'hui, aujourd'hui pour les gens, c'est une question d'équilibre. Mais est-ce que finalement, déjà, sur le fait que ça aille plus vite, est-ce que ça va réellement plus vite ou est-ce qu'on a l'impression que les choses vont plus vite?
Par rapport à ce que vous disiez juste avant, par rapport à la modernité et les effets et ses effets néfastes, elle en a, bien évidemment qu'elle en a.
Alors, j'ai pas parlé d'effets néfastes.
Oui, hein, mais par rapport aux conséquences...
Si on savait si ça avait des effets psychologiques sur nous, est-ce que ça se mesure?
Je pense que c'est un peu tôt, mais on a quand même des indicateurs assez forts qui nous montrent que ça a des effets et que très court terme, on va se rendre compte on va pouvoir justement justifier ces conséquences-là et elles seront pas forcément super agréables à entendre ni à voir. Maintenant, je pense que, comme disait Maximilien, il y a un relativisme quand même à avoir et on peut pas avoir une vision binaire par rapport, parce que souvent en plus on oppose la modernité à la tradition.
C'est bien ou c'est mal.
Voilà, ouais. Et à chaque époque on dit que c'était mieux avant. Donc pour nous la modernité c'est ce que nous vivons aujourd'hui et ça dirait que ça va très très vite en termes d'évolution. Il y a 500 ans, pour eux c'était la modernité par rapport à ce qu'ils disent 10 ans avant, vous voyez, ou 50 ans, ou la génération précédente. Et déjà, vous, à chaque époque, quand vous lisez les anciens auteurs, etc., vous voyez qu'ils disaient que c'était mieux avant.
Encore mieux avant.
C'était toujours mieux avant.
Les générations sont flemmardes.
C'est ça. Il y a toujours une, exactement. Il y a toujours une critique de la modernité de celui qui la vit. Quelle que soit cette modernité d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on oppose souvent la modernité à la tradition et on nous pousse à avoir une vision assez binaire en choisissant un camp. Et on peut avoir l'impression que si on choisit la modernité et que si on commence à reconnaître des bienfaits à la modernité, c'est comme si on trahissait la tradition ou comme si on trahissait des ancêtres. Et si on était dans, à l'opposé en train de mettre en avant le côté traditionnel, et ben c'est comme si on refusait et qu'on était des farouches opposants à la modernité. Et là, il faut avoir un relativisme, je pense, important. Essayer de trouver cet équilibre, c'est l'objectif. Mais avant même de trouver l'équilibre, c'est d'essayer d'avoir une vision juste des choses. La modernité peut amener et peut avoir des conséquences fâcheuses, voire néfastes sur la santé humaine, mais en même temps qu'elle a ses conséquences néfastes, elle peut en même temps avoir des conséquences qui le sont moins, voire même qui sont positives, et qui peuvent amener à certaines choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, on travaille plus à la maison, certes, il y a peut-être plus de myopes, mais en même temps, on a une durée de vie qui est un peu plus longue qu'il y a 100 ans, ouais. Et on a moins. Bon, on a toujours mal au dos, mais.
Ça veut dire qu'on sera myope plus longtemps.
On sera myope plus longtemps, sûrement, mais ce que je veux dire, c'est que travailler à l'extérieur avait aussi des conséquences. Être dans la tradition a aussi des conséquences. Mmh. Être naturel a aussi des conséquences. Vivre en plein air a aussi des conséquences.
Il y a une évolution de toute manière. C'est on est ça. Bien obligé, puisque on se doute bien que dans 40 ans, il n'y aura pas un gosse qui saura écrire sans faire une faute d'orthographe, ce n'est pas déjà le cas. Et ça se trouve, même l'écriture aura disparu, mais on saura peut-être manier plus rapidement la communication digitale.
C'est ça.
C'est sûr que perdre ce qu'on savait faire inquiète toujours, par définition. Mais pour obtenir quoi d'autre, en fait? On a perdu la carte routière, on ne l'utilise plus sur papier, on utilise un GPS. Et finalement, en utilisant certaines applications, on va beaucoup plus vite, parce qu'en temps réel, on sait comment arriver. Mais vous me direz, le pendant de ça, c'est qu'on ne connaît pas forcément les routes. Et ça, ça peut être aussi un problème.
Et je pense que c'est surtout ça, c'est-à-dire d'accepter qu'en gagnant des choses, on en perd. Et qu'en perdant des choses, on peut aussi en gagner, quelle que soit l'époque à laquelle on vit. Et à partir de là, de trouver, comme on en parlait tout à l'heure, cet équilibre. Et cet équilibre, je pense, qui peut se trouver avec certains outils. Ces outils vont être, par exemple, l'éthique. C'est-à-dire l'éthique, la sagesse, vont pouvoir permettre de trouver cet équilibre dans la modernité dans laquelle nous vivons, quelle qu'elle soit. Et c'est pour ça que ce que je suis en train de vous dire est aussi valable aujourd'hui qu'il y a 1000 ans que dans 1000 ans. Trouver cet équilibre, c'est ce qu'il y a de plus dur en réalité.
L'éthique, elle a changé ou pas?
Non,
c'est la même, en gros.
Les fondements de l'éthique sont les mêmes.
Ils n'ont
pas changé.
Voilà.
Par contre, l'utilisation de l'éthique ou comment on peut, parce qu'elle a quand même affaire à des choses qui changent.
Comment
qui
on
bougent.
La place aussi. C'est Est-ce ça. Qu'on peut le faire?
Et comme tout bouge autour de soi et que tout, j'aime pas le mot évoluer parce que c'est pas forcément toujours une évolution, mais tout bouge, tout change. Donc, l'éthique peut rester dans ses fondements la même. Par contre, dans son utilisation, et dans son espace, elle peut être un peu différente. Mais qu'elle soit différente n'est pas un problème. Et le fait, par exemple, qu'on oppose la tradition à la modernité, moi, ça me pose problème en soi. Pourquoi ? Parce que la tradition a été une modernité à un moment donné. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce qui est traditionnel aujourd'hui a été une modernité à un moment donné. Et je pense que pour pouvoir... Et dans la tradition, d'ailleurs, il n'y a pas que du bon, il y a aussi du mauvais dans certaines traditions. Et encore une fois, l'éthique ou la sagesse peut nous permettre d'utiliser dans ce qui est traditionnel ce qui est bon, d'utiliser dans la modernité ce qui peut être bon, et là, il faudra après redéfinir ce qui est bon pour soi, etc., et de faire en sorte de permettre à la modernité d'entrer dans une forme de tradition. Et vous voyez, cet équilibre, c'est ce qui est le plus dur. Un, pour être en phase par rapport à sa loyauté, par rapport à ses ancêtres, par rapport à son identité, par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'on nous a transmis et notre héritage. Parce que vous voyez que quand on passe à une forme différente, on a ce conflit un peu de loyauté entre ce que nous avons aujourd'hui et qu'on crée ou qu'on commence à développer et ce qu'on nous a légué, dont on a hérité, qu'on abandonne. Et je pense que tout n'est pas forcément à abandonner. On peut garder certaines choses. Là, dans la modernité, il y a des choses qui sont très mauvaises. dans la modernité, pendant, il y a des choses qui sont très bonnes. On parlait de la longévité tout à l'heure. Certes, on vit plus longtemps. On soigne. Il y a plein de maladies qu'on soigne aujourd'hui qu'on soignait pas il y a 50 ans.
Aussi plus de maladies qu'on n'avait pas il y a 50
voilà.
ans.
Voilà. Oui. Et il y a les maladies de civilisation.
Mais tout est une question d'équilibre, je pense, pour aujourd'hui.
Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'il faut savoir de quelle modernité on parle. Ouais. Si on parle de modernité qui permet de vivre plus longtemps, de vivre mieux, d'être en meilleure santé, de permettre à ce qu'il y ait plus de naissances, d'accompagner les gens qui sont en difficulté. Si on parle de cette modernité-là, ben, je pense qu'elle a quand même elle est quand même bienvenue. Par contre, si on parle de la modernité qui surexploite l'humain, qui crée des guerres, qui tue des centaines de milliers de personnes chaque année, alors que peut-être qu'il y a quelques milliers d'années, il y avait autant de guerres qu'aujourd'hui, mais c'était beaucoup moins de personnes qui mouraient parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Vous voyez, c'est de mettre sur la balance la modernité dont on parle.
Bon, on vous donne la parole également. Si vous trouvez que c'était mieux avant ou vous trouvez que c'est mieux aujourd'hui et qu'effectivement cette modernité, elle vous arrange, elle vous va bien et que vous vous êtes confortable avec ça, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Modernité du progrès au regret, on en parle aujourd'hui avec Ali Habibi et Maximilien Bachelard avec un T. Est-ce qu'on peut résister individuellement à l'accélération?
C'est
un combat qui est perdu d'avance.
C'est compliqué, moi. Je me retrouvais beaucoup dans les propos d'Ali tout à l'heure et je me disais que j'étais, comme je pense la plupart des gens, complètement d'accord avec lui. Parce que c'est compliqué de ne pas être d'accord avec Ali, finalement. Mais à ceci près que par rapport à avant,
le sage.
L'information s'accélère quand même et il suffit d'allumer une télé pour avoir des événements extrêmement dramatiques qui sont chassés deux minutes après par quatre autres et ça va extrêmement vite.
Bon, enfin, il n'y a pas beaucoup d'informations. En tout cas, il surfe sur très peu d'informations.
On crée, c'est la répétition et le rythme. Voilà, exactement. On crée du stimulus, quoi.
C'est ça.
On crée de l'excitation. Parce qu'il y a trop de calme dans la maison, donc on se branche sur une chaîne d'infos directes et puis on en prend plein la tronche et ça s'arrête pas. Mais moi, je pensais énormément aux patients que je suis quand j'écoutais Ali. Oui, c'est super compliqué pour beaucoup de gens de résister à cette accélération, de ne pas sauter sur tout ce qui bouge. Et je pense que ça fait partie des maux vraiment de notre société actuellement. C'est de se dire comment j'arrive à faire une bulle de calme au milieu de cet océan de vagues qui n'arrête pas dans tous les sens. Parce qu'il faut quand même avoir une capacité à gérer sa frustration, à apprendre à être patient. Pourquoi on parle autant de méditation ou de pleine conscience aujourd'hui? Parce que ça nous renvoie à la question d'être dans le présent. Moi, les gens que je rencontre, 90% des gens ont déjà un même souci au fond, c'est qu'ils sont dans le passé et ils sont dans le futur. Ils sont dans les probabilités, dans ce qui s'est passé. Donc, ils sont nulle part, ils ne sont pas dans leur corps, ils ne sont pas dans le présent. Et ils souffrent notamment par ce processus-là, tout simplement, même parfois, et c'est pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc, moi, pour ma part, je pense que les gens souffrent énormément de ça. Et quelqu'un qui ne souffre pas de ça, j'en rencontre peu, finalement, dans mes consultations.
C'est vrai que la plupart, beaucoup de personnes qui viennent en consultation sont soit des personnes qui se sont fait un peu envelopper par la modernité et vivent les conséquences néfastes en termes de dépendance, etc. Ou alors des personnes qui essayent de résister et qui ont besoin d'aide parce qu'elles sentent qu'elles ne peuvent pas y arriver seules, que c'est très difficile.
Puis ça fait déployer de l'énergie de résister.
Et on ne sait pas comment faire, on se sent perdu. Et après, derrière, en plus, il y a plein d'idées qui peuvent venir sur l'estime de soi. Tu n'es pas à la hauteur, tu ne peux pas le faire, etc. Qui sont très dévalorisantes et qui peuvent créer des souffrances. Donc, est-ce qu'on peut résister? J'ai envie de vous dire oui, c'est la résistance. C'est
mais
déjà
quand je dis résister
conscience.
Tout seul, c'est dire, bon, voilà.
C'est la prise de conscience déjà.
Regardez, Ali, le nombre de, alors, je sais pas, de gens qui travaillaient dans des villes, qui avaient des postes soi-disant magnifiques, qui étaient cadres ou
qui
travaillaient dans la finance, qui maintenant vont à la campagne, qui se lancent dans la permaculture ou dans, bon, voilà.
C'est une forme de résistance, oui. C'est pour ça que résister, j'ai envie de vous dire oui. Après, c'est résister, ça veut pas dire gagner. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on parle de résistance, on est souvent dans une opposition à quelque chose qui est grand et qu'on combat. Mais la résistance, ça gagne pas. La résistance, ça fait en sorte de ne pas, c'est pas de ne pas perdre dans le sens guerrier du terme, mais de ne pas plier en abandonnant soit ses principes, soit ses idéaux, soit son un comportement, et en ne faisant pas ce que cette masse ou ce pouvoir ou cet ennemi veut leur faire faire. Donc la résistance, c'est bien ça. Et donc résister, oui, très compliqué, très difficile, très énergivore, etc. Mais ça ne signifie pas qu'on gagne, dans le sens où on a réussi à battre la modernité. On ne peut pas battre la modernité, c'est ça la question. On ne la battra pas, la modernité. Par contre, on peut résister.
C'est inéluctable. Et on peut gagner. Ça ne changera pas.
C'est ça. Et ça continuera.
C'est comme la météo, c'est tout. Ça bouge. Soit vous mettez un parapluie, soit vous dites merde, aussi, l'enlèvement de la tête mouiller. Sans parapluie. Voilà. Mais après, ça reviendra au même. Il va pleuvoir quand même.
Et dans cette forme de résistance, on peut avoir une forme de victoire si la victoire, c'est le fait de résister. Mais pas le fait de battre l'adversaire.
Peut-être que même l'objectif, c'est d'être bien avec soi. C'est peut-être ça. L'indicateur. Vous savez, quand on est psy aussi, on rappelle ça aux gens. Quand on vous dit, bah, écoutez, moi, sur mon contrat, il y a marqué 35 heures et j'en fais plus de 50, voire 60. Et mon mari me dit de lâcher mon portable parce qu'à 22h30, on m'appelle pour me demander où sont les dossiers. Et que le samedi matin, je fais des heures sup et que ça fait 4 mois qu'on me les a pas payés. Là, la personne, elle est submergée. Et déjà, lui signifier qu'il y a une anormalité là-dedans et lui dire, mais alors comment vous vous sentez dans votre vie, où vous en êtes, ça lui permet aussi de se rendre compte qu'il va y avoir un effort à fournir, soit peut-être pour apprendre à dire non, soit peut-être aussi, et c'est ce que je dis aux gens, est-ce que vous devez résister à la folie de ce système ? Et il n'est pas impossible, et c'est souvent ce que je dis aux gens, il n'est pas impossible que vous n'ayez pas à changer, madame ou monsieur. Parce que les gens viennent me voir en me disant, optimisez-moi, apprenez-moi à m'affirmer. Et parfois, je leur dis, mais vous savez, peut-être que c'est le signal qu'il va falloir partir, en fait. Et peut-être que c'est plus fait pour vous. Peut-être que votre corps résiste et vous avez beaucoup de chance. Et peut-être que c'est un appel à faire autre chose. Mais les gens sont pas toujours ouverts à ça.
Voilà, parce que les gens sont très peu ouverts au changement. Ils savent que finalement, ça peut pas continuer. Mais changer, ça leur paraît, dans un premier temps, impossible.
Ouais.
Alors, c'est vrai que ça paraît impossible. Mais ce qui est aussi intéressant, là, en y réfléchissant, c'est que ce qu'on appelle la modernité ou l'évolution, en réalité, c'est juste un habit qui est différent. Parce qu'au fond, le système, c'est toujours le même. Quand tu parles tu disais par rapport à cette patiente, le fait de résister à la folie du système.
Ouais.
À la folie. C'est-à-dire qu'il y a rien. Au fond, si vraiment on gratte et qu'on analyse un peu le fonctionnement social, il y a une différence, bien évidemment, mais elle n'est pas si grande que ça par rapport à ce qu'on pouvait vivre il y a 500 ans ou il y a 1000 ans. C'est toujours le même système. Il y a toujours des gens qui exploitent d'autres personnes. Il y a toujours une forme d'esclavagisme, même si ce n'est pas le même. Et même si dans notre connotation, dans nos esprits, dès qu'on met le mot esclavagisme, on pense tout de suite à des gens qui sont vendus et qui ont des chaînes et qui sont
fouillés. Comme on a une fiche de paye, on se dit qu'on n'est pas esclave.
Exactement. Mais
comme on achète des choses pour compenser.
Exactement.
Plaisir, sauf qu'aujourd'hui, on dit esclave moderne.
Mais voyez, c'est-à-dire que cet esclavagisme moderne, justement, qui met le même habit que justement la modernité, c'est aussi une autre forme d'esclavagisme. C'est-à-dire qu'on travaille pour des gens, pour ceux qui sont salariés, etc., vont travailler pour des gens, et ils peuvent être dans le même système qu'il y a 500 ans ou 1000 ans. C'est juste que, comme tu disais, on va avoir des illusions, des leurres, qui vont nous faire croire qu'on est libre, qui vont nous faire croire qu'on a un pouvoir, qui vont nous faire croire. Vous voyez, je vous donne un exemple très simple. Quand vous regardez au niveau des actifs et des passifs, par rapport à ce qu'on peut posséder, acheter, etc., le banquier va vous faire croire que le fait d'acheter une maison et de vivre dedans, c'est un actif. C'est ça qu'il vend. Il vous vend un actif. En vous disant justement qu'acheter une maison, c'est quelque chose qui a une valeur, etc. Et que vous allez être plus riche en achetant une maison, etc. Et que vous allez avoir quelque chose qui est un actif. Ce qui est strictement faux. Jamais de la vie, une maison que vous achetez ou dans laquelle vous vivez est un actif. C'est un pur passif. La maison, elle ne vous rapporte pas d'argent. Vous voyez, un actif, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'argent, même sans que vous ayez à faire énormément d'efforts. Si vous achetez la maison et que vous la revendez, ça devient un actif. Mais si vous l'achetez et que vous vivez dedans, c'est un pur passif. Mais le banquier vous le vend comme si c'était un actif. Et il vous fait croire que vous êtes plus riche en achetant une maison, mais vous n'êtes pas plus riche en achetant une maison.
On l'a fait croire ça à beaucoup de gens.
Mais vous voyez, c'est-à-dire que vous allez juste travailler plus pour rembourser quelque chose, une somme que vous n'aviez pas à la base. Mais vous voyez,
mais il y a une arnaque. Mais
exactement. Ce système-là...
Les gens commencent à le réaliser, sur la propriété.
Oui, mais c'est aussi vrai sur plein d'autres choses. Et Maximilien disait très bien par rapport au pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est bien, c'est super. Et bien évidemment que notre situation, elle est bien meilleure que le pauvre type d'il y a 100 ans qui le pauvre, lui, il n'avait peut-être même pas de quoi manger tous les jours, etc. Elle est bien meilleure, certes, mais elle n'est pas si différente en termes de structure. Vous voyez, en termes de structure, il y a quand même beaucoup de ressemblances et peu de changements à ce niveau-là. Mais les personnes s'adaptent. C'est-à-dire que ceux qui veulent justement asservir des hommes vont s'adapter pour les asservir toujours, mais différemment, parce que justement, il y a un éveil. Vous voyez, là, il y a un éveil des consciences sur certains trucs. On trouve un autre système pour les asservir différemment. Il y a un éveil des consciences sur les gens qui sont justement contre la surconsommation, la surproduction, etc. Ils vont se retourner vers justement ce qui est un peu plus naturel, le bio, etc. Eh bien, on va essayer de trouver un autre système pour pouvoir les exploiter différemment.
À travers le bio.
À travers le bio, par exemple.
Après, il y a quelque chose aussi qui est important à noter, c'est que la technologie nous a fait croire qu'on allait gagner du temps, alors que finalement, plus les années passent, moins les gens ont de temps. Ouais. Tout de même.
Ça, c'est paradoxal, parce qu'on se dit, voilà, finalement, on va vous aider à travailler,
dans
votre tâche, et finalement, on se rend compte qu'on a moins de temps. Donc,
parce qu'il y a un astérix. Il y a un astérix qu'on lit pas, ou qu'on défend, qu'on note même pas d'ailleurs. On met juste l'astérix, mais on vous met pas ce qu'il y a en dessous.
C'est comme à partir de, c'est comme les prix d'appel. Voilà. C'est à partir de.
Il y a un astérix derrière par rapport justement à la technologie qui est, ça va vous faire gagner du temps, oui, si vous arrivez à être assez rigoureux, assez discipliné, assez sage, pour justement mesurer et utiliser la chose à bon escient.
On vous offre pas le contrôle de l'objet avec l'objet, c'est à vous de vous contrôler.
C'est à vous de vous contrôler.
On l'a pas dit, en fait.
On vous l'a pas dit, et on vous le dit pas, pourquoi? Parce que, c'est très compliqué à faire, et si on vous le disait, personne n'achetait parce que personne ne se contrôle, ou personne n'arrive forcément à se contrôler convenablement, que ça demande un gros travail, mais surtout, ce qu'on vous dit pas derrière, c'est qu'il y a un deuxième astérisque qui vous dit que si vous l'utilisez mal, ça va justement aller à contresens, où ça va vous aider à ne surtout pas vous contrôler. Et à vous faire contrôler justement par l'objet.
C'est comme le patron qui dit à son employé au prud'homme, mais je savais pas que c'était une charge de travail aussi importante pour toi, il fallait me le dire. C'est en ça où je parle de, est-ce que nous sommes tous drogués? Parce que pour moi, c'est un mécanisme. Et c'est comme du glucose, quoi. Il y a un moment donné, c'est comme du chocolat, c'est comme le tabac. Il y a un moment où on se rend plus compte qu'on en a besoin et qu'on court après quelque chose. Moi, j'avais une application où il y a des ventes privées régulièrement. Bon, ça me fait sourire parce que si vous passez au moins 5 minutes, finalement, vous dites « Ah bah tiens, je pourrais avoir besoin de ça ». Mais en fait, vous avez besoin de rien du tout. Je vous le signe, c'est clair. Il y a un élément aussi que les études montrent, et bon, je pense que les gens seront assez d'accord avec ça, mais qui est quand même assez drôle au final. Plus les gens sont riches, plus ils sont stressés, moins ils ont le temps. Et on sait que plus les gens sont pauvres, moins ils ont de stress et plus ils ont de temps pour eux, ce que les études montrent. Et c'est pour ça aussi que vous voyez ces grands cadres, ces grands dirigeants partir à la campagne pour le week-end, parce qu'ils vont s'accorder ce temps-là qu'ils ne peuvent pas avoir dans un système qui est toujours en perpétuel mouvement. Donc, bon, moi je...
Si on demandait aux pauvres, ils préféraient être riches, à mon avis.
Oui, c'est sûr. Et puis une fois qu'ils seront riches, ils seront embarqués dans quelque chose qui est compliqué. Parce qu'à partir du moment où vous avez 36 abonnements, que vous n'arrivez plus à résilier votre parabole, que vous êtes parti pour un an, que si, que ça. Après, tout ce temps est bouffé pour des choses qui restent futiles. Parce que la question, moi, que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que ça a du sens tout ça, vraiment? Toutes ces souffrances là qu'on a, le patient arrive, il vient me voir, il n'en peut plus avec son patron, mais il touche un salaire de misère. Est-ce que finalement, cette perte de sens, elle ne devrait pas le pousser à se dire « Mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, là ? Si je me laisse un an ou deux, est-ce qu'il ne faudrait pas que je parte ailleurs, quoi ?» Puis qu'est-ce qui fait que je suis là-dedans, au final ? Parce que les gens sont pris avec la carotte et le bâton et vous disent « Mais vous ne vous rendez pas compte, si vous étiez à ma place, je n'ai pas le choix. » Donc, on a des gens qui viennent, qui sont en fait entourés de liberté et qui peuvent la prendre, mais qui nous regardent très mal en disant « Mais vous ne vous rendez pas compte, je suis enchaîné. » Bon, moi, après, personnellement, j'ai pu me désenchaîner de certaines choses dans mon parcours personnel, donc je leur en parle à ce moment-là.
Vous avez résilié votre abonnement à...
J'ai résilié mon abonnement. Vous rigolez, mais
chasse et pêche.
Mais je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai mis 6 mois pour résilier le butagaz en arrivant dans ma nouvelle maison. Ils voulaient pas me lâcher. Ils voulaient pas reprendre leur truc. Ils voulaient me vendre la citerne.
Après,
Et c'était insupportable. Et ça a été 6 mois d'engueulade au téléphone. Et je leur ai dit, parce que je suis un peu têtu, je mourrai au téléphone, monsieur. Tant que vous ne m'aurez pas tiré le but à gaz de mon jardin. Et il faut y aller par harcèlement. Et tout ça, ça bouffe du temps. Il y a des jours où ça me faisait rire et il y a des jours où, franchement...
Ça fatiguait, oui.
C'est le prix de la liberté.
C'est le prix de la liberté.
Maximilien. Bon, allez, on a envie de vous entendre un petit peu, vous, cette modernité, ce progrès. Comment vous vivez? 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Modernité du progrès au regret avec Ali Habibi et Maximilien Bachelard. Comment expliquer la différence de ceux qui vivent la modernité comme un danger et ceux qui vivent la modernité comme un ami ?
Comment expliquer la différence ?
Ouais, qu'est-ce qui fait que finalement pour certains c'est un danger et que pour d'autres c'est un ami ?
C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure.
Où les gens ne se posent pas la question.
C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur un peu la vision binaire. C'est-à-dire que avoir une vision binaire en disant c'est soit l'un soit l'autre, et donc de choisir un camp, je pense que ça c'est déjà un peu dangereux ou un peu risqué, et c'est pas totalement juste. Si on est dans une recherche, on va dire de justice, on peut pas dire que c'est que mal. Non, il y a aussi du bien, mais il y a aussi du mal, c'est vrai, mais il y a du bien quand même. Vous voyez, comme on disait par rapport à la tradition ou à ce qui était ancien, il y a du bien, mais il y a aussi des mauvaises choses. La semaine prochaine, je pars en voyage, je suis bien content que l'avion existe et que je mette 5 heures à faire mon vol, et ça me paraît déjà très très long, au lieu de passer...
Vous voyez qu'on en parle, parce que ça va nous coûter en empreinte carbone, Ali Habibi.
Oui, oui, certes, mais c'est bon, on va pas
rentrer dans ce truc-là. Allez, l'empreinte carbone.
Mais je suis bien content...
Combien il va falloir que vous alliez planter d'arbres pour votre voyage.
De manière égoïste, je suis bien content de trouver cet avion-là et de pas faire 3 semaines
de caravane
pour pouvoir, sinon je serais même pas
à Dodan,
et d'ailleurs je crois que
à la Nasreddin,
c'est bien ça,
j'aurais fait le choix de pas y aller d'ailleurs, et donc j'aurais pas pu y être. Mais vous voyez, c'est à dire que il y a des choses qu'on peut utiliser qui peuvent être, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est vrai que ça serait peut-être à redéfinir, mais qui peuvent être bonnes. Maintenant, choisir un camp et être dans une forme de voilà, un truc clivant où c'est soit l'un soit l'autre. Quand on choisit un camp dans ce sujet-là, je pense que ça peut créer aussi beaucoup de souffrance. Ça peut créer beaucoup de souffrance parce que on va s'interdire des choses qui sont peut-être bonnes pour soi, sous prétexte d'être fidèle à son éthique
ou
à son idéal. On va se permettre des choses qui sont peut-être mauvaises pour soi. Vous voyez, c'est avoir cette façon de voir les choses ou avoir cette position binaire, je pense qu'elle pousse à ne plus être juste par rapport à soi, par rapport même au sujet, et c'est là où ça peut être dangereux pour soi. Donc trouver l'équilibre, c'est vrai que c'est très difficile, c'est très compliqué, mais c'est la juste voie à prendre, je pense.
Je pense qu'il faut aussi savoir un peu quels sont nos besoins, quoi, en fait, de quoi on a vraiment besoin au fond. Et vous savez, moi j'ai quelques patients assez fortunés qui me disent Je me dis que tout ça, c'est quand même bien compliqué, et il faudrait que si je réduisais mon salaire et je réduisais mes responsabilités, en fait, ça irait très bien. Mais il y aurait beaucoup de choses à déconstruire.
Oui.
Voilà. Donc quand on a un bateau...
Mais quel rapport avec la modernité ?
On est sur la question de l'argent et de la possession, parce que pour moi, on est dans la même chose. C'est-à-dire que... parce qu'au fond, vous avez raison, vous êtes en train d'éclairer un élément auquel je pense. Je pense qu'il faut se demander de quoi on a vraiment besoin fondamentalement et de quoi on peut se passer. Et ce que j'ai obtenu, quel pourcentage ça m'a pompé dans mon existence ou dans mon énergie quotidienne. Voilà. C'est-à-dire que à partir du moment où avoir le dernier truc vous demande...
Alors montrez le téléphone d'Ali, par exemple, à la radio, c'est important.
Ou les vôtres.
Il est extraordinairement grand.
Pas le mien. Le mien, c'est la préhistoire du téléphone.
Non, c'est pas la préhistoire.
Bon, c'est pas très loin, hein. C'est le Moyen-Âge, alors.
Non. Bon.
En tout cas, quand on a tous ces attributs, finalement, qui sont aujourd'hui presque des choses nécessaires...
C'est chiant, c'est-à-dire que moi, par exemple, tous les patients qui viennent, la première fois, je leur fais remplir une fiche de renseignement. Ce que je vous l'avais déjà dit, le portable d'avant, il est tombé de ma poche. Je vais pas citer la marque, un truc tout en plastique qui vous coûte 300 balles, il était foutu. Voilà. Donc je dis aux gens, mettez-moi votre numéro, parce que si un jour mon nouveau portable retombe, que je sois pas dépendant de ce truc-là, si je peux vous dire, j'ai une suée par rapport à ça. En me disant, j'ai plus les numéros de personne. Il manquerait plus que je paie mon agenda papier, parce que j'ai un agenda papier justement, pour plus savoir avec qui est-ce que je vois dans la semaine et comment je fais, quoi. Donc c'est des trucs comme ça où vous vous dites, oh là là, mais je suis dépendant de ce truc, quoi. Si ça allume plus, je fais quoi.
Mais tu vois, mais t'es aussi dépendant de ton agenda papier.
Ah oui, clairement, mais on est toujours dépendant de quelque chose.
Exact. C'est-à-dire que l'agenda papier, il te rend service, mais si tu le perds, c'est un peu la galère.
Mais là, il y a tout numérique.
Le problème, c'est qu'il y a tout en un dans le portable. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. C'est qu'il y a l'agenda, il y a le téléphone, il y a les numéros, il y a les photos.
Il y a votre vie.
Voilà, il y a les photos de ci, il y a tout, en fait.
Mais c'est là, tu vois qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chaque objet.
Ah, complètement.
Et que pour sécuriser au maximum, bah, faudrait utiliser les deux. Ou le maximum, quoi, le utiliser, quoi, essayer de combler au maximum.
Mais toi, tu as ce réflexe, mais on ne l'a pas toujours. C'est-à-dire que la nouvelle technologie, elle nous fait comprendre.
Ah, moi, je n'ai pas ce réflexe. C'est-à-dire que moi, je vais utiliser le numérique et tout va bien. Donc, pendant que tout va bien, tant que tout va bien, je continue à l'utiliser.
Voilà, parce que la nouvelle technologie nous fait croire qu'on va pouvoir se reposer complètement dessus et qu'on aura moins de soucis, qu'on aura la charge mentale allégée. Ce qui n'est pas vrai, en fait. Parce que le jour où ça saute, bah, vous êtes bien comme un idiot.
C'est ça.
Et voilà. Ça fait penser à l'autoradio de Nadia sur les petites annonces.
La dernière fois, voilà. qui cherchait quelqu'un pour lui déverrouiller son autoradio.
Voilà, parce que la batterie était retirée et remise. Et en fait, à ce moment-là, on ne peut pas redémarrer l'autoradio. C'est foutu. On est dépendant du constructeur qui nous donne un numéro pour relancer l'autoradio. Voilà, c'est la nouvelle technologie.
Ton exemple du patient fortuné qui a justement se dit « Je pourrais diminuer mes responsabilités, mon salaire, avoir plus de temps, etc. etc. » Mais et que Philippe, tu disais « Oui, mais là, on rentre dans la notion de richesse, on n'est plus dans la modernité. » La manière dont on perçoit la chose, c'est à peu près la même chose en termes de richesse qu'en termes de modernité. C'est-à-dire que ce monsieur qui peut gagner, je ne sais pas moi, on va donner des exemples, mais s'il gagne, je ne sais pas moi, 6 ou 7 000 euros par mois, ce qui est un très bon salaire, et qu'il se dise, bah, il faut que je le diminue peut-être à 3 000, ce qui est déjà aussi pas mal, mais il voit son salaire diminuer de moitié. Et donc son cadre de vie va complètement changer. On peut avoir l'impression de se dire, mais là, il est complètement perdant, il gagne 50% de moins, donc il va faire 50% de moins, quoi, il va posséder peut-être 50% de moins, etc., etc. Mais non. Pourquoi? Parce que si on a une autre façon de voir les choses et qu'on se dit que le temps qu'il va gagner en travaillant moins, il va gagner moins, certes, mais le temps qu'il gagnera en travaillant moins et qu'il pourra, et tout ce qu'il pourra faire pendant ce temps-là a une valeur aussi.
Il va le passer sur son téléphone portable, son ordinateur.
Qui ne se compte pas en monnaie, mais qui a une valeur qui peut valoir ces 3000 qu'il diminue, voire même plus. Et là, on voit que justement, selon la position qu'on va avoir et la perception qu'on a, eh ben, on n'a pas les mêmes représentations. Et pour la modernité, c'est à peu près la même chose.
Comment on va réinvestir? C'est ça aussi, cette question.
Oui.
Est-ce que c'est parce que je te donne du temps que tu vas bien réinvestir?
Bien sûr, bien sûr.
Les gens se disent, ah là là, quand j'aurai du temps, je ne vais rien faire. Et puis dès qu'ils ont du temps, ben, en fait, ils font.
D'accord. Ou non.
C'est humain, ça.
Ou alors, quand on a beaucoup de temps, enfin, on se dit toujours, quand j'ai du temps, je ferai. Et quand on a du temps, on se rend compte qu'on ne fait rien.
Mais même le fait de rien faire, c'est un luxe. Oui, ça a une valeur. Concrètement, c'est-à-dire
quand
que...
Quand on a un boulot, c'est un luxe. Quand on a un boulot prenant, c'est un luxe, clairement. Quoi.
Mais quand on n'en a pas, c'est une perte de temps.
Voilà, les gens qui n'en ont pas, ils nous disent « moi, j'aimerais bien ne pas avoir le temps ». Il y a des gens qui doivent se dire ça.
Parce qu'il y a des priorités. Celui qui n'a pas de travail, sa priorité, ce n'est pas de vivre le luxe de pouvoir rien faire. Sa priorité, c'est de trouver du travail pour pouvoir justement...
Pour faire quelque chose.
Pour faire quelque chose et pour pouvoir payer certaines choses, etc. Ouais. Et avoir un pouvoir d'achat.
Mais si un an après, il se retrouve avec son argent à avoir contracté un prêt pour payer son loyer, qu'il est un peu ric-rac, mais qu'il fallait bien un peu de place pour sa famille, et que finalement il bosse tellement qu'il ne voit plus sa femme le soir ni ses gosses, et bah dans un an il vous dira ça me saoule parce qu'en fait, j'étais avec mes gosses et là je ne les vois plus. Voilà. C'est la question de la mesure, et puis dans quoi on s'embarque, où est-ce que je mets le pied, quoi.
Il y a aussi la question des gens, parce que la modernité peut avoir un côté angoissant, par exemple les gens qui se disent dans 10 ans, on ne conduira plus les voitures.
Bah ouais.
Ce sera les voitures qui nous conduiront.
Bah oui, mais bon, dans 10 ans, j'aurai plus de boulot parce que c'est les machines qui le feront.
Oui, mais celui qui va créer les machines va avoir du boulot.
Ouais, tous ceux qui répareront ces trucs qui déconneront tout le temps.
Ceux qui vont créer la machine, ils auront du boulot. Donc après, c'est ça le fait de. C'est-à-dire que oui, mais si on a une façon assez individualiste de voir les choses en disant, mais c'est moi là, je vais être perdant ou je suis gagnant. Ouais. Mais si on regarde de manière globale, ben, quand j'ai gagné, c'est que quelqu'un d'autre a perdu aussi. Vous voyez, c'est le travail que j'ai aujourd'hui, ben, c'est peut-être le fait qu'un autre n'en en ait plus, et ainsi de suite. Et si on rentre dans le côté spirituel, on se libère en réalité de tout ça. Parce que dans le côté spirituel, et par exemple dans la foi musulmane, c'est pas le travail, ni le patron, ni vos clients qui vous permettent de vivre ou qui vous donnent votre subsistance, c'est Dieu. Vous voyez, donc lui, il vous demande de faire des causes qui ne vous apportent pas. Qui n'apporte rien directement à la cause, mais c'est quelque chose qu'il vous demande de faire, parce que c'est lui qui donne. Et quand vous êtes dans cette croyance-là, là, vous vous libérez justement de cette forme d'esclavagisme dans laquelle on peut être face à certains hommes qui vont vous dire, écoute, si tu fais pas ça, je te vire. Et qu'à la fin, vous faites un truc que vous n'avez pas envie de faire. Et là, vous vous libérez de ça. Pourquoi? Parce que quand vous comprenez que c'est Dieu qui subvient vos besoins, quand vous êtes dans cette appartenance de foi, vous n'êtes plus soucieux en réalité de tout ce qui peut justement créer des soucis au quotidien de plusieurs personnes et créer justement des souffrances, voire même des pathologies. Vous faites des causes, vous allez faire des choses et vous allez vous... Et là, on rentre dans un autre truc qui est la suffisance. Vous allez vous contenter de ce que vous avez.
Alors ça j'aimerais bien, hein. ça serait l'idéal, ça, se contenter de ce qu'on a. Mais
c'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi?
C'est pas
parce
facile
que l'être
parce
humain,
que
l'être humain, il est aussi amené à chercher à avoir toujours plus. Vous voyez, tout à l'heure vous prenez l'exemple de ce patient qui est fortuné. Lui, il se pose cette question aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a quelques années, il gagnait déjà beaucoup. Il disait comment faire pour gagner plus, comme la plupart des humains d'ailleurs. Comment faire pour gagner plus? Quand j'ai du temps, comment faire pour en avoir plus? Quand j'ai tel gain, comment faire? Etc. etc. On veut toujours plus. Et là, on revient à la notion dont on parlait tout à l'heure, qui va être cette rigueur et le comportement qu'on doit avoir et qu'on devrait justement avoir, qui va être le fait de se contrôler. Et le fait de se contrôler, c'est de se libérer aussi de ses passions. Parce que quand on est dans une forme justement d'immédiateté, de désir instantané, je veux, donc je dois avoir, etc., je peux avoir l'impression d'avoir du pouvoir et d'être libre, mais c'est loin d'être le cas.
Moi, j'aimerais votre avis à tous les deux. Quand on a le sentiment, finalement, que tout s'accélère, que tout va trop vite, que tout va plus vite, comment est-ce qu'on fait pour ralentir ?
Moi, je suis en train de me dire, et ça rejoint, enfin, c'est ce que j'allais dire, et ça rejoint votre question. Je crois qu'on peut désirer avoir plus, quand même, en fait. Mais on parle beaucoup de biens matériels, en fait, depuis tout à l'heure. D'argent, de chiffres sur une application.
Là, vous n'êtes pas du tout en train de répondre à ma question, Maxime.
Ben, moi, je pense que pour pouvoir ralentir...
Vous êtes en train de me noyer, là.
Parce que je pense que pour pouvoir ralentir, on peut commencer à avoir une appétence pour l'immatériel, en fait.
C'est ça. Voilà.
Ça peut être
et là, ça ralentit les choses. Parce que ce qui accélère
déjà,
les choses...
Déjà, se détacher de tout ce qui a un prix.
Et je pense, parce que vous savez, quand il vous manque de l'amour ou de l'amitié, ou quand vous avez confiance en personne, ou quand vous vous sentez seul... Bon, vous avez beau acheter, on reste sur des fondamentaux, ça réglera pas la question et ça vous ressurgira au visage. Hein. Une fois que vous aurez fait 3 fois de tour en Jaguar et que vous ferez votre selfie, vous aurez personne à qui l'envoyer.
Mais tout a un prix, hein. C'est juste que c'est pas dans le sens commercial. C'est-à-dire que avoir des relations humaines ou justement avoir une relation amoureuse ou avoir des connaissances, parce que les connaissances aussi ça a de la valeur, ça a le prix peut-être de délaisser quelque chose qui va être de l'argent ou qui va être du matériel pour pouvoir prendre ce temps-là pour autre chose. Le truc, et je pense que Maximilien a raison, c'est le fait de chercher à avoir plus, mais c'est quel est ce plus-là? Mais encore une fois, ce plus-là, ça demande du contrôle.
Mais ça va venir, mais pas forcément, parce que je me dis que ça peut venir nourrir plus directement un besoin. Si vous vous dites, j'ai toujours voulu avoir une fibre artistique et dessiner, ou j'ai toujours voulu lire un peu plus de littérature française, et que vous prenez ce temps à faire ça, pour moi, vous n'êtes pas dans un cumul de biens matériels, et c'est beaucoup plus nourrissant. Vous allez directement au truc. C'est-à-dire qu'avoir un portable de dernière génération, moi, je vais trouver ça bien, mais
c'est
comme
pas un projet.
C'est pas un projet, puis ça amène à rien, en fait. Ça n'a pas vraiment de sens. Ça donne du plaisir sur le coup. Hein. Je fume une clope, ça m'apporte rien. Ça calme quelque chose. Ça calme un besoin. Et donc, c'est de faire la différence entre j'ai un besoin au fond de moi, je sais pas pourquoi, il faut absolument que je change ma voiture ou mon portable, parce que je me sentirai mieux. Puis une fois que je l'ai, bah, finalement, ça va pas mieux. En fait, ça n'a rien à
régler. Parce que le besoin est ailleurs.
Voilà. Il y a une stimulation intérieure. Ah, tiens, ça me chatouille. Et puis, je prends un truc grandiose et cher. Et puis, bah, ça va pas mieux, en fait. Le lendemain matin, ça va pas mieux.
Donc, la résistance, pour répondre à la question de la résistance pour ralentir, c'était ça?
Pour ralentir, c'est dire, tiens, subitement, quand on a cette impression que tout va tellement vite, on va dire, on fait comment?
À couper la télé, vite.
Alors, oui, ça peut être, oui, c'est de lever le pied par rapport à notre quotidien et par rapport à tout ce que fait tout le monde en règle générale tous les jours. C'est-à-dire, c'est de lever le pied en se disant, de se poser la question, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que je peux m'en passer? Est-ce que je peux... Alors, je vais commencer par peut-être me libérer de certaines choses dont je peux me libérer facilement. On ne va peut-être pas s'attaquer tout de suite aux trucs qui sont vraiment aliénants et qui sont difficiles, voilà. Mais des petites choses, progressivement.
Les obligations qu'on s'est mises, par exemple, aussi.
Exactement.
Ce que je dois faire dans la semaine, il y a des choses...
Je peux me libérer de ça. Au niveau des achats, de me dire, voilà, est-ce que ça, j'en ai besoin ou pas? Ça, je peux m'en débarrasser. Ça, je peux peut-être le donner ou le revendre et essayer de vivre sans. Je vais me donner une période, diminuer la consommation des écrans, essayer de faire des choses un peu plus concrètes ou un peu plus réelles, mais progressivement, tout doucement. Et quand on se donne, on va dire, ce petit espace qui est, je pense que la plupart des gens peuvent se donner ce petit espace tant que c'est pas immense, on fait l'expérience de la chose et on commence à ralentir peut-être à ce moment-là.
Quand on a ces besoins immatériels pressants, c'est aussi qu'on a une excitation qu'on essaye de taire à l'intérieur. Donc c'est pour ça que revenir dans le présent, dans son corps, ce qu'on va faire par exemple avec l'hypnose en séance ou ce genre de choses, va permettre de se reconnecter à qu'est-ce qui se passe au fond de moi. Je me sens pas bien, je veux consommer, et puis finalement, si je m'accorde une minute pour être tranquille dans le silence en buvant mon café, je vais peut-être me dire, mais en fait, c'est une histoire de solitude, je me sens seul et donc j'ai envie de gigoter, ou alors je n'aime pas le silence, ou je me sens abandonné, ou je me sens triste, ah, donc il y a quelque chose derrière. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut pouvoir revenir au corps et au présent, puisqu'à partir de ce moment-là, si vous le faites bien, va se mettre à fleurir une réponse qui est bien plus intéressante que d'attraper quelque chose pour ne pas couler.
Et ce qui est intéressant dans le fait de revenir à l'instant présent et au corps, c'est que c'est comme si c'était aussi une forme de spiritualité, parce que la modernité, elle est venue justement en opposition au spirituel ou au religieux. C'est pour ça que d'ailleurs il y a eu cette vision binaire et ces conflits. Mais ce qu'on peut voir aujourd'hui dans justement même au niveau de la psychologie, ce qu'on peut apporter aux patients, etc., c'est comme un retour à soi et un retour à l'essentiel. Et ça peut amener vers des spiritualités, vers des religions, comme ça peut amener tout doucement vers justement le fait de se centrer sur soi, sur ses émotions, sur ses besoins, et d'apprendre à s'écouter, à s'entendre et à se comprendre. Parce que sinon, on s'oublie.
Mmh. La modernité, finalement, c'est une crise de la consommation.
Ou de la conscience.
Et puis, c'est aussi se relier aux objets et aux autres, mais de manière inefficace. C'est-à-dire que quand on dit ça aux gens, parfois, ils vous disent « Ah oui, mais je me sens coupable, c'est égoïste de s'occuper de soi. »
Pas du tout.
Et donc, il faut leur dire, à ce moment-là, il faut leur parler de ce truc. Parce que les gens, après, se disent « Finalement, je suis dans la course comme tout le monde, ça m'empêche de réfléchir et de trop m'occuper de moi. » Parce qu'on m'a toujours dit que je m'occupais trop de moi, etc. Et moi, je leur dis, plus vous serez égoïste, plus vous serez, entre guillemets, je réutilise leur terme, plus vous serez égoïste, mieux vous serez avec vous, et plus vous serez bien avec les autres aussi. Et vous allez aider les autres en même temps, directement.
Ali Habibi, Maximilien Bachelard, la Dream Team sur Beurre FM, pour la dernière fois de l'année, déjà. Ouais. Là, c'est les vacances. Puis Ali, maintenant, vous voyagez beaucoup, vous prenez des avions avec beaucoup d'empreintes carbone, et vous faites des voyages de 5 heures.
Et vous allez replanter des arbres, donc vous voyez qu'on
fait... Et moi, pour vous, je plante des arbres, vous voyez.
C'est pas pour moi.
Non, si c'est pour vous, c'est parce qu'à cause de vous.
Voilà.
Mais par contre, j'y prends du plaisir,
voilà,
vous voyez.
Voilà, donc c'est pour vous.
Je me donne un but.
Donc grâce à moi, vous prenez du plaisir
exactement,
à replanter des arbres.
Exactement, Ali, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous et à demain.